Géopolitique. Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Nous sommes à Bucarest dans les studios de RFI Romania à l'occasion de l'élection présidentielle qui à 7h se poursuit toujours. Les bureaux de vote sont encore ouverts. Ils fermeront à 21h, soit juste à la fin de cette émission. La discrétion est donc de rigueur et c'est sans doute toute la difficulté de l'exercice pour nos invités moi-même tant la campagne a été imprégnée de politique étrangère. Ce deuxième tour de scrutin oppose deux candidats. Georges Simion, leader de l'extrême droite roumaine, un fan de Donald Trump et une star des réseaux sociaux. Et Nicu Sordan, le maire centriste de Bucarest depuis 4 ans. Une élection importante pour la Roumanie, membre de l'Union européenne depuis 2007, dont l'un des voisins est l'Ukraine, en guerre depuis février 2022. La Roumanie est indirectement très concernée, la situation faisant du pays un pilier essentiel de l'OTAN. L'élection du président roumain est scrutée de près tant à l'ouest du continent européen que par les États-Unis et sans doute ailleurs. Les États-Unis qui disposent de plus d'un millier de soldats américains sur le sol roumain. Présence américaine qui n'est pas unique. La France dirige, elle, les forces de l'OTAN déployées sur le territoire et a le plus fort contingent de troupes de l'organisation atlantique sur place. Regard sur la Roumanie, un pays stratégique, sur la ligne de front occidentale face à la Russie. La ville de Constanța sur la mer Noire abritant la plus grande base de l'OTAN en Europe orientale. Nos invités, Alison Mutler, directrice du site internet universal.net. Bonjour.
Bonjour.
Christian Preda, professeur de sciences politiques à l'Université de Bucarest et ancien député européen. Bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Merci à vous de nous avoir rejoints ici pour nous éclairer sur la Roumanie. Et Christian Pirvulescu, politologue, professeur à l'École nationale des études politiques et d'administration de Bucarest et membre du Comité économique et social européen à Bruxelles. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation aussi.
La Roumanie n'aura connu pareille campagne, particulièrement longue, on peut le rappeler. Le processus électoral avait été entamé à l'automne dernier et annulé sur des soupçons d'ingérence. Il a donc fallu reprendre à zéro le processus. C'est ainsi la 4e fois en quelques mois que les Roumains se rendaient aux urnes aujourd'hui. Le premier tour de ce nouveau second scrutin s'est déroulé le 4 mai. Alors, j'ai parcouru Bucarest de long en large ces dernières 24 heures pour découvrir une ville fort belle et intéressante, où se côtoient modernité et vestiges très impressionnants par leur taille de l'époque communiste. Je pense bien sûr au gigantesque palais du Parlement, symbole de la grande mégalomanie de l'ancien dictateur Nicolas Ceaușescu. Et j'étais très surprise en me promenant de ne voir aucune allusion à cette élection. Pas de grandes affiches électorales comme on peut les trouver ailleurs en Europe ou aux États-Unis par exemple. Un scrutin sans publicité visuelle, tout cela n'incite guère à la mobilisation des électeurs. Je ne sais pas qui souhaite commenter pour commencer. Christian Pirvulescu.
Oui, merci. Mais c'est vraiment très simple. Vous avez déjà dit, un des candidats est star des réseaux sociaux. C'est une campagne qui est toujours très forte sur les réseaux sociaux. Et déjà, le premier tour qui a été annulé en novembre, c'était une surprise à cause des TikTok et des réseaux sociaux. Mmh. L'ingérence russe, c'était sur les réseaux sociaux. Et voilà pourquoi on n'a pas une campagne traditionnelle, si vous voulez, parce que ça n'a aucun sens en Roumanie. C'est plutôt sur télévision, mais les réseaux sociaux et TikTok spécialement. TikTok où, dans le dernier jour, c'était comme en novembre, une explosion des vidéos qui ont présenté un candidat en mode exceptionnel avec des dizaines de milliers de visualisations. Mmh. C'était vraiment incroyable. Et c'est très important pour comprendre que la campagne électorale, pas seulement en Roumanie, mais dans le monde, s'est changée avec les réseaux sociaux.
Alors, tout de même, je ne sais pas si vous souhaitez commenter, Alison Mutler, Christian Preda, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les anciennes générations? Est-ce que cette absence de visibilité de cette campagne est vraie aussi dans les campagnes de Roumanie, ce n'est pas seulement à Bucarest?
Écoutez, il faut ajouter à ce que mon collègue vient de dire, le fait qu'il y a eu des grandes affiches, il y a eu une visibilité dans ce qu'on appelle la pré-campagne, parce que les Roumains ont inventé la campagne qui s'appelle pré-campagne. C'est avant le début de la campagne officielle, il y a une période qui peut être très longue, qui s'appelle pré-campagne, où vous pouvez empaquer tout un immeuble avec votre photo, vous pouvez faire n'importe quoi. Par contre, durant la campagne électorale, vous pouvez mettre seulement des petites affiches, sur des panneaux qui sont montés par les médias. Et ça va comme ça. Mais au fond, la campagne se déroule maintenant à la télé, sur les réseaux sociaux. Et tout le monde est là. C'est-à-dire, nous avions déjà, en début de 2024, 9 millions de comptes TikTok, ce qui est énorme pour une population de
19-20 millions de,
c'est
d'habitants.
Ça, c'est énorme. Donc, les gens sont là-bas, dans ce chaos que représente TikTok. Donc, mais en fait, ça, c'est un élément seulement de cette campagne. L'autre élément que je trouve il est beaucoup plus important pour ce qui se passe, c'est le fait que pour la première fois, on a un candidat qui est soutenu ouvertement par Moscou. On n'a jamais vu cela. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que ce même candidat se revendique également du président américain. Donc, venir en Roumanie et découvrir qu'un candidat est soutenu déjà par le Kremlin, c'est un choc pour qui connaît l'histoire électorale, parce que la Russie ne s'est jamais mêlée de ces élections. Et puis, découvrir que vous avez une synchronisation avec certains partis de l'administration américaine avec ce même candidat, c'est quand même choquant. Donc d'ici la difficulté de lire de ces choses-là, et d'ici également l'importance pour l'Europe en son entier. C'est pas une question qui intéresse les Roumains. Je trouve que c'est un enjeu qui vise tout l'Europe, et j'en suis sûr, on va parler de ça.
Alison Mettler.
Vous avez raison, c'est pas beaucoup d'affiches qu'on va... affiche comme est normal, comme est habitué. Mais on discute très intense l'élection dans les autobus, au métro, dans les appartements, dans la rue, dans les restaurants, dans les bureaux. Elle est très, très discutée et tout le monde discute et ils sont en famille, les disputes entre les amis, entre comme ça, la famille. Alors, c'est très discuté et c'est une certaine tension dans la société parce que nous avons les deux candidats extrêmement différents, des pôles complets différents. Et ça va décider la direction de Roumanie dans l'avenir, proche et peut-être moyen.
La Roumanie et je pense aussi à la Pologne où vous étiez, Christian Pirvulescu, juste avant de revenir à Bucarest. Je rebondis, Christian Preda, sur ce que vous avez dit et l'ingérence des États-Unis avec le soutien direct de Donald Trump. Vous avez eu vent aussi de la présence d'Américains qui n'ont pas grand-chose à faire à Bucarest.
Écoutez, c'est un journaliste, un autre journaliste français qui vient de m'informer parce qu'il a découvert hier matin, samedi matin, dans un hôtel de Bucarest, le représentant de Trump pour la Groenland et le Groenlandais qui est devenu d'un pauvre maçon le chef de file de ce mouvement trumpiste en Groenland. C'est lui, ce mouvement qui veut que l'Amérique, que les États-Unis achètent cette partie du Danemark, parce qu'il faut dire que c'est un territoire autonome et la souveraineté, c'est une souveraineté danoise.
Et qu'est-ce que ce monsieur est venu dire à Bucarest?
Mais justement, apparemment, c'est sur l'invitation justement de ce candidat qui est soutenu non seulement par une partie de cette administration trumpiste, mais par le Kremlin. Et c'est ça le choquant, parce que, écoutez, finalement, pour simplifier la chose, c'est pour la première fois qu'on vote entre l'Est et l'Ouest. Parce que Alison Mettler, il a parfaitement raison. Les deux candidats sont tout ce que vous voulez d'opposer. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu un métier et qui est devenu du jour au lendemain la grande star de la politique roumaine, qui parle un mauvais roumain. Et bon, il s'est exercé aussi en français. Il était quand même assez désastreux. Il avait fait la leçon à Macron en expliquant aux journalistes français que Macron, c'est un dictateur, que la France est l'Iran transposé en Europe et que d'ici 20 ans, la France va mourir. C'est ce monsieur. Et puis vous avez un grand mathématicien qui a fait de la défense du patrimoine de la ville de Bucarest, qui s'est investi comme acteur civique et qui s'est converti à la politique. Il y a 7-8 ans, il avait fait un mandat comme maire de Bucarest. C'est un pro-européen. Il est quelqu'un qui a fait son école en France. Il a terminé l'école normale supérieure. Il a fait sa thèse également à Paris. Donc c'est quelqu'un de très civilisé, avec un vrai métier, qui a même essayé de faire une implantation de l'école normale supérieure à Bucarest. Et pour 7-8 ans, il a travaillé dans ce sens-là. Donc quelqu'un qui a un profil, un métier, une vocation, qui a fait ses preuves en tant que maire de Bucarest. et qui est confronté avec une vague ultranationaliste, une extrême droite extrêmement agressive, qui combine la nostalgie du communisme et la nostalgie pour l'entre-deux-guerres, et plus exactement pour le fasciste roumain qui c'était le mouvement légionnaire. Donc c'est vraiment un chaos, et tout ce qui se passe sur TikTok déstabilise complètement l'opinion, parce que c'est déjà chaotique. Entrer sur TikTok, c'est, il faut être très, très fort pour résister là-bas. Mais avec toutes ces complications que je viens rapidement d'esquisser, c'est le pauvre électeur roumain, il a du mal à se retrouver. Mais bon, on espère tout de même que la bonne participation fera le nécessaire pour qu'on s'en sort, parce qu'on ne veut pas une catastrophe, on ne veut pas que ça continue pour des mois et des mois, comme certains l'annoncent.
Une participation électorale qui n'a pas été vraiment au rendez-vous pour le premier tour, si j'ai bien compris, parce que finalement, il y a tout de même 50% de l'électorat qui ne s'est pas déplacé. On verra bien sûr ce qu'il en est pour ce second tour. Christian Prédin évoquait la nostalgie du communisme. J'aimerais que vous nous disiez, alors pour nos éditeurs, on peut rappeler et dire que la Roumanie a connu un des plus durs régimes de la sphère communiste, avec Ceaușescu et son épouse qui ont été déboulonnés en décembre 1989. Est-ce qu'il y a vraiment nostalgie aujourd'hui ? Est-ce que cette nostalgie, elle est l'apanage finalement des anciens de Roumanie? Je me suis laissé dire que selon une enquête, 40% des jeunes aujourd'hui ne semblent rien savoir du passé fasciste et communiste de Roumanie. Est-ce que là aussi on peut parler peut-être d'un échec éducatif? C'est peut-être l'occasion aussi à ce stade de l'émission de parler du bilan du président sortant, Ioannis Cristian Pirvulescu.
Oui, mais je veux commencer avec une référence aux présences aux urnes, parce que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. On a 6 millions de Roumains qui sont dehors, et c'est vraiment très difficile de voter en diaspora, mais on a presque 1000
Bureau de vote,
à l'étranger. Mais à mon avis, 53%, c'était une très bonne présence pour le premier tour. On ne peut pas espérer une présence, disons, de 80%. Ça, c'est impossible en Roumanie. C'est-à-dire, on espère pour ce deuxième tour une présence de 55, peut-être, votes. Et ça, c'est déjà beaucoup. Parce que, je reviens, on a 18 millions d'électeurs en Roumanie et 6 millions sont dehors.
C'est-à-dire, une diaspora très importante.
Ah oui, une diaspora vraiment très importante.
Et on le rappelle, en Italie, en Espagne.
En Allemagne, Royaume-Uni.
Aux États-Unis, au Canada.
Pas très important, France après. France après, et je crois que c'est vraiment très important d'expliquer que la diaspora de l'Europe de l'Ouest a voté majoritairement avec l'extrême droite à cause de la Roumanie virtuelle sur les réseaux sociaux. Et plutôt sur TikTok, parce que le succès de TikTok, c'était totalement... La Roumanie de TikTok n'est pas du tout la Roumanie réelle. Et pour répondre à votre question, oui, il y a des nostalgiques en Roumanie, mais c'est M. Christian Preda qui a expliqué il y a quelques minutes qu'on a une liaison entre fascisme, communisme, et le fascisme ou néofascisme actuel.
Avec les extrêmes qui se rejoignent, c'est ça qu'il faut entendre aussi.
Mais voilà, ce n'est pas du tout assez simple. Ceaușescu que vous avez évoqué avant, il a inventé le national-communisme en Roumanie. Et le national-communisme, c'était une idéologie pour légitimer le régime communiste, mais qui était très connecté avec le fascisme entre les deux guerres.
C'est ça.
Et après la Révolution, c'était un parti qui a fait l'histoire en Roumanie, le parti de la Grande Roumanie, un parti politique qui était une expression d'une vision nationaliste et national-communiste, et qui a réussi en 2000, c'était pour la première fois dans l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, d'être le deuxième parti aux élections parlementaires, et son candidat, Corneliu Vadim Tudor, il était dans le deuxième tour des élections présidentielles avant Jean-Marie Le Pen, 2 ans avant Jean-Marie Le Pen en France. Ah oui, et ça vous donne une situation vraiment très compliquée, parce qu'il y a des nostalgies qui ont existé toujours. Mais pourquoi maintenant cette explosion? Est-ce que c'est une surprise? Pour moi, non. C'est pas du tout une surprise. Et oui, c'est vrai, il y a beaucoup de nostalgiques, mais cette nostalgie était construite. C'est une nostalgie qui était construite idéologiquement pour justifier la guerre contre Ioannis, parce que Ioannis il était
donc l'ancien président.
Ancien président qui était considéré comme un représentant de l'Union européenne, qui est vraiment très dangereux pour la tradition romaine. On a cette culte de la tradition que Umberto Eco, que vous connaissez très bien, Umberto Eco l'écrivain. A considéré écrivain, philosophe italien, dans un célèbre article et conférence nommé Le fascisme éternel, il a considéré le culte de la tradition la première caractéristique du fascisme. Et on a, dans ce débat électoral en Roumanie, toutes les caractéristiques du fascisme que Eco a défini dans son article présente. C'est-à-dire, c'est une guerre entre le fascisme. Ce sont des élections cruciales, historiques. On ne discute pas d'élections entre deux candidats qui sont un peu différents. Mmh. Non, c'est
diamétralement opposé.
Diamétralement opposé, oui.
Sur plein de sujets aussi, on l'abordera, les questions notamment de... Enfin, la politique étrangère a été un sujet vraiment très important, finalement, dans cette campagne. Et on reviendra sur le bilan Ioannis, et puis l'aborder les questions les questions économiques et comprendre pourquoi il y a une diaspora roumaine si importante en dehors de Roumanie. Marae de Babacha, qui est numéro 1 au top 50 en Roumanie. On va parler économie. Quel regard vous portez les uns les autres sur la situation économique de la Roumanie? Je rappelle qu'autour de moi, vous êtes trois. Alison Mutler, Christian Preda et Christian Pirvulescu pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle en Roumanie. Finalement, quelle est aujourd'hui la réalité de l'appartenance à l'Union européenne? On a évoqué précédemment cette diaspora roumaine qui est très importante à l'étranger. Christian Pirvulescu, vous évoquez 6 millions de personnes. La population actuelle de la Roumanie, c'est 19 millions. Est-ce que cela veut dire, d'une certaine manière, qu'il y a échec de la politique de transition de tout ce qui est venu après le communisme, Alison Mutler?
Oui, c'était une transition assez lente. Alors, le premier décade, les premières
décennies,
les 10 ans, c'est très difficile pour la Roumanie. Les améliorations ont commencé après 2000. Et avec l'Union européenne, les Roumains pouvaient partir, travailler, habiter dans l'étranger, à l'Europe de l'Ouest. Et là, on gagne plus qu'ici. Et c'est vrai que les salaires de Roumanie, ils ont augmenté, mais assez long. Alors, la diaspora, ils aiment beaucoup les salaires, ce sont mieux. Et aussi, peut-être les conditions professionnelles, là, au dehors, sont mieux en Europe occidentale. Mais ils votent plutôt avec les partis extrême droite maintenant, avant avec les partis européens il y a 10 ans, je pense. Aussi parce qu'ils n'a pas les conséquences. Comme avec Turquie et Erdogan, c'était le diaspora qui a voté Erdogan il y a 8 ans, je pense. Et aussi, je pense maintenant que le diaspora roumain, pour eux, qu'est-ce qui se passe avec Roumanie dans la vie quotidienne, dans l'économie, ils n'affectent pas personnellement. Et alors, c'est un candidat pour eux peut-être plus charismatique, plus cool, je ne sais pas, sur les réseaux de TikTok. Il n'a pas les conséquences quotidiennes. Alors, et c'est pour ça, à mon avis, c'est aussi une sorte d'inconscience. Ils ne sont pas très aware.
Au courant des choses.
Non. Et ils n'affectent pas leur vie quotidienne.
Christian Preda, sur la situation économique de la Roumanie, dont on peut rappeler, alors je ne sais pas si c'est vrai, parmi les plus pauvres de l'Union européenne, un déficit public qui est le plus important des 27.
Oui, bon, vous savez, les statistiques, on peut les utiliser dans tous les sens. Si nous prenons en considération le fait que depuis la chute du communisme, notre production industrielle a augmenté 15 fois, c'est quand même quelque chose qui a une transformation énorme de la société roumaine, qu'on ne voit pas parfois en vivant ici ou en vivant entre l'étranger et sa maison. Parfois, les choses essentielles nous échappent, ça arrive. Et c'est l'un des problèmes de cette diaspora, dont une partie est une diaspora qui bouge, qui reste 6 mois à Botoşani, 3 mois à Paris, ils retournent au pays pour 4 mois, ils vont en Espagne 4 mois, etc. Donc c'est un mouvement pendulaire et ça, on l'a étudié depuis longtemps. J'ajouterais aussi le fait que ces diasporas, en quelque sorte, elles incarnent pleinement le projet européen. Parce que ce sont des gens qui profitent vraiment de la liberté de circulation. Et qui, comme, si vous voulez, les paysans... les gens qui vivaient dans l'espace rural en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, quand ils découvrent les usines, ils quittent leur ruralité et ils viennent bosser dans des conditions parfois abominables dans les usines anglaises. D'ailleurs, ces Roumains qui vont à l'étranger, sauf une exception, une élite très éduquée, très bien payée, etc., la plupart, ils viennent dans les pays occidentaux et ils vivent dans des conditions exécrables. Mais les salaires qu'on paye dans ces pays-là, c'est supérieur à ce qu'on a à la maison. D'ici, le gros problème, qui est le problème de l'adaptation, et notamment d'une adaptation sociale, dans un sens beaucoup plus complexe que ce qu'on connaît dans un pays où les gens restent sur place. Parce que vous ne vous adaptez pas au milieu social de chez vous, vous quittez. Dans la plupart des cas, c'est des Roumains qui vivent dans des ghettos, donc qui n'ont pas une intégration sociale, et qui sont perdus. Et alors ce type de message radical, charismatique, messianique, cela peut vous séduire. Si vous oubliez l'essentiel, je vous donne un exemple très clair. Il y a en Italie un vice-premier ministre qui s'appelle Matteo Salvini. Il était ministre des Affaires intérieures il y a 10 ans. Et à l'époque, un ouvrier roumain a tué un Italien. Il y a eu un scandale énorme. Ce monsieur Salvini, il a dit, les Roumains, il a ajouté aussi les Bulgares, parce que c'est la même région, ils s'en foutent, Roumains, Bulgares, c'est la même chose. Les Roumains et les Bulgares, il faut les évacuer parce que c'est tous des criminels. Or, aujourd'hui, beaucoup de Roumains qui vivent en Italie suivent le consigne électoral donné par Salvini qui soutient ce candidat ultranationaliste de chez nous. Donc, vous voyez, c'est quand même incroyable la contrariété, le caractère contradictoire de ces mouvements. Mais il faut voir quelle est la racine des choses, il faut voir comment est-ce qu'on peut résoudre les situations. Parce que bon, là maintenant on a une bataille électorale, ça va se terminer d'ici quelques minutes. J'espère que bon, on n'aura pas des prolongations qui nous compliquent encore la vie. Mais en fait, il faut, je crois, prendre au sérieux ces enjeux. Ce sont des enjeux européens. Ça fait partie de l'Europe. Et nous, comment dirais-je, moi, je me sens depuis un moment européen, hein, depuis 89, j'allais dire. Je me suis battu pour cela. Mais maintenant, on voit, comment dirais-je, dans une proportion de masse, comme on disait il y a des décennies, on sent qu'on est vraiment une partie de cette Europe qui bouge, parce que ce qui se passe en Roumanie avec la montée de l'ultranationalisme, de l'extrême droite, du radicalisme politique, de l'admiration pour les populistes, ça se passe dans tous nos pays d'Europe. Hein. Et donc, finalement, si vous voulez, les Roumains se sentent enfin européens, hein, parce qu'ils sont vraiment synchronisés avec toutes ces évolutions. Et c'est à nous de résoudre maintenant un problème qui est extrêmement compliqué. C'est pour cela que nous avons bien apprécié le soutien qui est venu de nos grands amis, notamment de la France. Hein, parce que la France, elle est ici sur place. Et quand Trump a suggéré, ou des gens autour de Trump ont suggéré qu'il est possible que les Américains se retirent, Macron, il a dit, je vous donne mon parapluie nucléaire, je vous donne mon soutien nucléaire. C'est à l'époque, d'ailleurs, que dans l'espace politique roumain, l'un des candidats, justement, cette extrême droite populiste, il a commencé à dire, le vrai problème, c'est la France, c'est une dictature à la maison, et la France veut occuper la Roumanie. C'est dans ce thème-là qu'on discute ici, et je crois qu'il faut bien parler de ça aussi en France, parce que je n'ai pas vraiment vu de réaction en France quand, il y a trois semaines, l'un des candidats qui était sorti en premier, finalement, avait dit « la France veut occuper la Roumanie ». En plus, ni l'ambassade n'a réagi. Et maintenant, le même candidat accuse l'ambassadeur d'avoir concocté un complot pour annuler les élections. Donc, je crois qu'il faut être beaucoup plus attentif à ce qui se passe dans nos pays membres. Hein. Ce n'est pas simplement comme ça, dans des situations électorales, quand on voit le feu, qu'il faut être attentif à ce qui se passe dans nos pays. Je crois que la connaissance de nos États membres, une meilleure connaissance de nos États membres, ça aidera vraiment l'Europe, hein, au-delà des discours, des grands principes, etc. Être vigilant sur les mouvements politique dans chacun des États, c'est extrêmement important.
Alors, la question du nucléaire, c'est vrai que ça n'a pas été formalisé comme ça l'a été avec la Pologne, avec la signature du traité de Nancy, mais c'était de toute façon une information importante. Alors, justement, moi j'ai cette question. Alors, il y a des choses qu'on peut rappeler, c'est l'entrée de la Roumanie au sein de l'Union européenne qui s'est faite en 2007. La Pologne connaissait aujourd'hui aussi le premier tour d'une élection présidentielle. On a le sentiment, à l'extérieur de Roumanie, que Bucarest a du mal à faire entendre sa voix et a du mal à trouver une place et a du mal à l'exprimer et à la revendiquer, cette place. J'aime pas les comparaisons, mais comparons tout de même, par rapport à la Pologne, Christian Pervoulescu.
Mais écoutez, la Pologne, c'est un pays plus grand que la Roumanie. 40 millions contre 20 millions. Et puis, la Pologne, elle est entrée dans l'Union européenne en 2004. Elle était le leader.
C'était 3 ans juste avant la Roumanie.
Oui, c'était 3 ans, mais pour nous et pour la Bulgarie, c'était toujours plus compliqué. Une transition, comme Alison a expliqué, plus longue, plus dure, socialement très coûteuse. Mais il faut dire que maintenant, en Pologne, parce que vous avez dit, je viens de Varsovie, je suis venu vendredi soir, pour les Polonais, l'expérience romande, c'est vraiment très important, parce qu'ils ont l'impression que les Russes vont intervenir dans leur élection, comme c'était le cas en novembre, peut-être maintenant déjà. Puis, un de notre candidat était, il y a quelques jours, à Varsovie pour soutenir le candidat des droites là-bas, c'est-à-dire la Roumanie et la Pologne, elles sont dans le même bateau, si vous voulez. En ce qui concerne l'économie, je crois qu'il faut expliquer très bien que l'économie roumaine est une économie de succès. C'était Christian Preda qui expliquait déjà avant. C'est très simple d'expliquer à la Roumanie, en ce qui concerne le PIB par habitant. Et maintenant, avant l'Hongrie, la Grèce et le Portugal.
C'est dire le chemin parcouru, c'est ça que vous êtes en train de dire.
Ah, oui.
De
oui, c'est vrai. Mais en ce qui concerne l'Hongrie, c'est vraiment très intéressant. C'est parce que la Roumanie est vraiment très exemplaire en ce qui concerne l'exigence économique. Mais parce que l'Hongrie est un pays qui est dirigé par un leader d'extrême droite qui a détruit l'économie du marché. Et voilà. Et moi, je crois que c'est vraiment très important de comprendre ça. Mais revenant, oui, il y a qu'est-ce que l'extrême droite reproche maintenant, que la Roumanie n'était pas du tout très présente. À mon avis, la Roumanie était vraiment très bien représentée. M. Preda, il était ici, il était membre du Parlement européen pendant 10 ans. Il était vraiment très vocal. Il a dirigé beaucoup de missions à l'étranger, électorales. Voilà, il a une expérience très importante. C'était très bien connu dans le Parlement européen avant. Je crois que même en ce qui concerne le Conseil, la Roumanie était vraiment très, très utile. Et j'ai un autre exemple très bon, 2019. La Roumanie était à la présidence de l'Union européenne, des conseils, et c'était une présidence exemplaire. Moi, je ne crois pas que la Roumanie est un pays secondaire dans l'Union européenne.
Je n'ai pas dit secondaire. J'ai dit qu'il ne faisait pas entendre sa voix à la hauteur de ce à quoi elle peut aspirer. Je ne sais
comme,
pas. Mais
comme,
j'ai pas dit
comme l'Hongrie de Viktor Orban, vous voulez dire
Non, différemment. Mais voilà, je ne sais pas, Alison Mettler, vous avez cette impression aussi, ce que j'évoquais là, d'un pays qui ne se fait pas suffisamment entendre?
Oui, c'est possible. Le problème en Roumanie, l'ancien président Iohannis, il était très pro-européen, aussi pro-occidental, pro-OTAN, mais c'était un problème avec communication. Alors, c'est aussi un problème avec l'extrême droite. La Roumanie a aidé beaucoup l'Ukraine avec les munitions, avec le transport des grains.
L'accueil de réfugiés.
Oui, l'accueil des réfugiés et les autres choses qu'on ne sait pas, l'intelligence, les autres choses. Mais ce n'était pas très bien communiqué parce que Roumanie, quand on fait la reconstruction de l'Ukraine, Roumanie doit participer et doit gagner et bénéficier de cet commerce parce qu'il a aidé beaucoup. Mais l'ancien gouvernement n'a communiqué beaucoup pour ne pas inciter l'extrême droite. L'extrême droite en Roumanie, c'est anti-Ukraine. Ce n'est pas forcément très pro-Kremlin, très pro-Poutine, mais il est très anti-Ukraine. Il ne veut pas aider militairement un des candidats d'extrême droite, mais il n'ose pas être très clair pro-Moscova parce que Roumanie a une histoire très difficile avec les Russes, très difficile. Ils sont les nostalgiques, c'est vrai. Je crois 14% de Roumains sont pro-russes. Mais les autres, c'est beaucoup de souffrance et beaucoup de trauma pour les Roumains.
Et la Roumanie, précisément, qui a vu l'invasion de l'Ukraine par la Russie comme une menace directe pour elle. Enfin, on a senti
un
pays qui a été envahi une vingtaine de fois par la Russie.
Frontière de plus que 600 kilomètres.
Ouais. Alors, ce qui m'intéressera, c'est aussi, on ne reviendra pas sur les débats de politique étrangère qui ont eu cours dans cette campagne sur pour ou contre l'Ukraine, pour ou contre l'Union européenne. Je vous poserai la question de savoir la manière dont finalement la Roumanie est vue aujourd'hui dans son environnement régional, avec des pays voisins qui sont la Serbie, la Moldavie, l'Ukraine, on l'a dit, la Hongrie et la Bulgarie, pardon.
Mami, strigă-mă-i tare, nu te aud, chiar de te doare. Jari, jari, lasă vrăjala, așunela, te camaraula. Vin după tine, ține-te bine să vezi ce-ți fac. Hai vino să te pup, nu-ți fie frică, nu te pa. Chiar dacă văd, chiar dacă te-ascunzi fraiere, tot nu scap. E prea târziu, modul țigan că deja e activat. Vin după tine, ține-te bine să vezi ce-ți fac. Hai vino să te pup, nu-ți fie frică, nu te pa. Chiar dacă văd, că deja e activat. Eu nu voiam, dar nu mi-ai dat de les. Hai la mama, nu te lovesc, eu te iubesc. Hai că și ție îți place pe coadă să mă calci.
bine, ține-te bine să vezi ce-ți fac. Hai vino să te pup, nu-ți fie frică, nu te bag. Chiar dacă fuci, chiar dacă te ascunzi, fraiere, tot nu scap. E prea târziu, modul țigan că deja e activat. Vin după tine, ține-te bine să vezi ce-ți fac. Hai vino să te pup, nu-ți fie frică, nu te bag. Chiar dacă fuci, chiar dacă te ascunzi, fraiere, tot nu scap. E prea târziu, modul țigan că deja e activat.
Alors, Tine te Biné de la chanteuse Guilla. Christian Preda, je l'évoquais avant cette pause musicale. On ne revient pas sur les grands sujets de politique étrangère qui ont agité la campagne pour ou contre l'Union européenne, pour ou contre l'aide à l'Ukraine, pour ou contre la présence de l'OTAN en Roumanie, qui par certains est vue comme une présence coloniale. Je le disais, la Roumanie, dans son environnement régional, de quelle image dispose-t-elle? Alors évidemment, c'est différent selon les pays. Je les évoque à nouveau, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie, l'Ukraine et la Moldavie. Quelles idées principales vous pourriez nous transmettre à ce sujet?
Oui, très vite. Je crois que les Bulgares... nous envie parce que nous avons eu jusqu'ici une certaine stabilité, même si, enfin, c'est relatif, c'est beaucoup plus instable qu'il y a 20 ans. Et nous, on craint qu'on ne connaisse après ces élections l'instabilité que les Bulgares connaissent depuis 3-4 ans, parce qu'ils ont fait cette élection. Les Serbes sont des grands tricheurs, parce qu'eux, ils essayent et de faire la négociation avec l'Europe et de travailler avec Poutine. Et pour nous, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas des alliés, parce que nous avions été très clairs là-dessus. On était très liés au consensus européen. Donc les Serbes, peut-être, espèrent avoir ces mêmes duplicités en Roumanie. Les Hongrois, avec Orban, ils ont du mal à travailler avec la Roumanie parce que, bon, ils ont tout d'abord l'intérêt de la minorité hongroise de Roumanie, mais très probablement, la minorité hongroise de Roumanie vote aujourd'hui contre le positionnement de Orban. L'Ukraine a bien profité de notre appui, même si nos autorités ont essayé de tenir le secret, entre autres en disant, enfin c'était un peu bête, mais ils ont dit, si on communique trop, les adversaires de l'Ukraine vont nous en profiter. Bon, enfin bon, je crois que ce secret a justement encouragé une certaine pensée dans des termes de complot du côté des ultranationalistes. Enfin, les Moldaves, je crois qu'ils sont les plus intéressés. D'ailleurs, une grande partie des Moldaves ont des passeports roumains et ils votent depuis vendredi en masse dans ces élections-là. Et ils votent pour que la Roumanie reste une Roumanie ancrée en Europe. Parce que, si vous voulez, les Moldaves, ils sont bien conscients qu'avec une Roumanie qui balance, qui tremble, qui ne participe plus à ce consensus européen sur l'Ukraine et sur l'élargissement avec la Moldavie, serait une mauvaise Roumanie. Donc, vous voyez, c'est très complexe ce paysage et il mériterait peut-être de s'attarder un peu sur chacun des camps.
Plus longuement, Alissa Metla, vous souhaitez rajouter quelque chose?
Non, seulement ça dépend de l'avenir de ces pays. Si un des candidats à l'extrême droite il est élu, ça va être un peu de déstabilisement pour l'Union européenne et cette région avec l'Hongrie, aussi avec la Slovaquie. Et peut-être ça c'est le but de Moscou,
oui,
pour
ça.
Déstabiliser cette région. C'est un effet domino. Alors c'est une flanque estique. De NATO, OTAN et aussi de l'Union européenne qui est déstabilisée pour faiblir. Ça c'est le bout de Moscou.
Ouais. Christian Pervoulescu, vous...
Oui,
partager.
Vous savez, ah oui, bien sûr, jusque maintenant, la Roumanie était une île de démocratie libérale dans une mer illibérale. Parce que même Bulgarie, elle était illibérale. Et Moldavie, c'était vraiment très important parce qu'il faut dire qu'il y a des liaisons historiques entre la Roumanie et la Moldavie. Et la Moldavie était influencée par la politique libérale de Roumanie. Voilà pourquoi Maia Sandu a gagné en 2020 et puis en 2024.
Et de justesse en 2024.
De justesse, mais avec l'aide des diasporas. C'était Christian Preda qui a dit avant, je crois, que un million de citoyens roumains sont des Moldovans, des citoyens moldovens aussi, de Moldavie aussi, et ça c'est déjà vraiment très important. C'est-à-dire, si la Roumanie devient un pays illibéral, C'est un grand succès pour la Russie, géopolitiquement. C'est leur moment de gloire pour changer le rapport de force en Europe, pour avoir une équipe illibérale très puissante avec Orban, Fico et l'extrême droite roumain, et peut-être, pourquoi pas, un président polonais qui est aussi très conservateur. Peut-être pas du tout d'extrême droite, mais vraiment très, très conservateur. Et voilà, ça ne change pas la politique, seulement la politique roumaine. Ça change l'Europe, et si on change l'Europe, on change le monde. Parce que l'Europe a un rôle très important maintenant en ce qui concerne les questions essentielles. Par exemple, en ce qui concerne l'écologie, on est maintenant le seul qui continue de soutenir des politiques écologiques. En ce qui concerne les droits de l'homme, dans un moment que les droits de l'homme sont partout dans le monde considérés comme quelque chose de superflu. Et voilà. À mon avis, les élections roumaines sont cruciales pour tout le monde.
Mmh, on l'a bien compris, d'où notre présence ici. Alors, je ne sais pas si on va parler de la... Enfin, si, simplement rappeler que la Roumanie est voisine de la Russie en mer Noire avec la Crimée, annexée en 2014. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous dire sur la stratégie de la Roumanie en mer Noire. J'aurais aimé aussi revenir sur les sujets de campagne. Et ça, on ne l'a pas évoqué. On a parlé de la crise économique et sociale. Corruption et justice ont aussi été les sujets de campagne, en dehors du positionnement sur l'Europe et les sujets que j'ai évoqués précédemment, Christian Preda.
Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Vous savez, il y a presque 20 ans maintenant, le président roumain de l'époque, Traian Băsescu, il a été démis par le Parlement, renversé par le Parlement, avec une grosse majorité, parce qu'il avait osé dire, entre autres, que la mer Noire ne doit pas devenir un lac russe. Il y a eu une mobilisation des forces politiques à l'époque, étaient déjà intégrées dans les mouvements politiques européens, chez les socialistes, chez les libéraux à l'époque. Et on avait construit de toutes pièces une crise politique terrible. Le président avait vu juste, je crois, à l'époque, hein, parce qu'on sentait le fait qu'une fois bien enrichi par l'exploitation des ressources, la Russie a une ambition impériale. Hein. Et donc, malheureusement, en 2007, on a perdu du temps, beaucoup d'énergie. Et bon, le président n'a pas été finalement démis de ses fonctions parce qu'il y a un référendum qui n'a pas validé ça. Une année plus tard, le sommet de l'OTAN se fait à Bucarest, c'était en 2008. La Géorgie et l'Ukraine se présentent comme candidats pour entrer à l'OTAN. La Roumanie, après cet exercice dont je viens de parler, soutenait et l'appartenance et un plan très clair, en fait, non pas la réception de l'accueil de l'Ukraine et de la Géorgie tout de suite dans l'OTAN, mais l'idée de les faire un jour membres de cette organisation. Malheureusement, même si à l'époque c'était les Américains qui soutenaient ça, la France et l'Allemagne n'ont pas compris cela. Poutine était encore là parce qu'il y avait le partenariat entre l'OTAN et la Russie. Et donc on a eu, entre autres, une session de ce format, l'OTAN-Russie. Poutine était très content parce qu'il avait déjà bloqué quelque chose qui était extrêmement important pour la sécurité européenne. Quelques mois plus tard, la Géorgie est envahie. En 2014, l'Ukraine est envahie. En 2022, vous avez une deuxième agression. Et on est là. Et je donne cet exemple pour dire qu'il faut toujours être très attentif à ce que les pays de l'Est disent en termes de sécurité sur la Russie.
Ils ont le sentiment de ne pas être suffisamment écoutés, justement.
Non, mais parce qu'on n'est pas écoutés. Et moi, pour avoir justement passé 10 ans au Parlement européen, je me souviens les efforts que nous faisions, nous, les députés de l'Est, de parler non seulement de ce qui se passe comme source d'instabilité au sud de l'Europe, avec le plan Tara, mais aussi à l'est de l'Europe. Et nous sommes battus après l'agression de 2014. Déjà, l'agression a commencé là. Et on n'était pas écoutés, ni même au moment où les Russes avaient occupé la Crimée. Donc, vraiment, là où nous sommes très contents du fait qu'enfin, notamment grâce aux efforts de la France, c'est ce climat d'insécurité qui vient de Moscou est bien compris. Et nous sommes déterminés, je crois, et j'espère que ça va bien se passer finalement. Nous sommes déterminés, nous sommes décidés de participer à cet effort commun européen, parce qu'on est enfin écoutés, on est enfin entendus, et je crois qu'on doit se défendre, parce que l'agression militaire de la Russie va continuer si on est faible là-dessus. S'il y a une capitulation de l'Ukraine, si ce scénario que Poutine veut et qu'apparemment à un certain moment Trump soutenait, l'agression militaire de la Russie va continuer. Ils ne vont pas s'arrêter. Et c'est la leçon des années 38-40 qu'il faut revoir parce que c'est le même déroulement des choses. Donc voilà, on est quand même des témoins des transformations historiques et bon, il faut travailler tous en Européen, en membre de l'OTAN, pour se défendre, c'est quand même important.
Et vous êtes, j'imagine, tous d'accord, mais je vais
bien
vous demander, Alison Mettler
et Christian. Pour l'instant, c'est une guerre hybride, et ça continue. Mais c'est aussi une naïveté en Roumanie. Beaucoup de monde n'était pas consciente que la Russie peut influencer les élections de Roumanie. Même la presse, on s'est réveillé en février. On n'a pas vu la possibilité d'une guerre hybride pour déstructuriser, pour déstabiliser Roumanie. Mmh. Et c'est une certaine naïveté, à mon avis.
Christian Pivulescu, en guise de conclusion.
Bon, des élections cruciales en Roumanie, pour la Roumanie, pour l'Europe et pour le monde. Très important pour le futur de la démocratie libérale. À mon avis, la démocratie libérale n'existe pas. C'est que Orban a expliqué en Roumanie. Il faut dire que Victor Orban, en 2014, il a proposé la démocratie libérale comme modèle ici en Roumanie.
Lui, le Hongrois, on est d'accord.
Il est Hongrois, mais c'est une université d'été que son parti Fidesz organise début 1990. Et dans cette conférence qui s'appelle Tujvanyos, il a expliqué pour la première fois sa adhésion à la démocratie libérale. Voilà. Et cette démocratie libérale est devenue très importante. C'était 2 ans avant la victoire de Trump, il faut expliquer. Mm-hmm. C'est une modèle déjà, mais à mon avis, ce n'est pas du tout une démocratie. Il faut construire une vraie démocratie en Roumanie. J'espère que les élections d'aujourd'hui sont très importantes dans cette direction. On ne va pas résoudre le grand problème de la Roumanie, mais peut-être on va commencer de comprendre.
En tout cas, on a bien compris effectivement l'importance de ce scrutin, de cette élection présidentielle avec les bureaux de vote qui ferment maintenant. Merci Christian Pivulescu. Je rappelle que vous êtes politologue, professeur à l'École nationale des études politiques et d'administration de Bucarest, membre du comité économique et social européen à Bruxelles. Alison Mettler, directrice du site internet universul.net et Christian Preda, professeur de sciences politiques à l'Université cité de Bucarest et on l'a entendu, ancien député européen entre 2009 et 2019. Je vous signale l'édition spéciale demain matin sur RFI à 8h10, entre 8h10 et 9h, édition spéciale sur le résultat des élections roumaines. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Alice Mesna à Bucarest avec Oria et Mathias Golciani à Paris. Un grand merci à nos confrères de RFI Romania pour leur accueil et leur contribution. Vous êtes bien sur RFI dans quelques instants, Dimanche politique, suivi du magazine Idées et tout de suite le journal.